Silcast présente la revue de presse. Thème du jour, sciences cognitives et conscience, avec Elena et Clara. Bonne écoute. Journée sciences cognitives aujourd'hui, et c'est un menu assez chargé. Christophe Koch, qui revient sur les patients split brain, un neuroscientifique qui plaide pour prendre au sérieux la conscience des IA. Deux papiers Arxiv un peu techniques sur des architectures neuronales bioplausibles. Et une critique en sciences sociales de la thèse de Dehen sur le langage de la pensée. On commence par où ? Par Koch, je pense, parce que c'est le point de repère méthodologique. Chaque fois qu'on parle conscience, quelqu'un ressort les split brain patients comme preuve de quelque chose, et généralement, les gens surinterprètent. Qu'est-ce que Koch en dit exactement dans le MIT Press Reader? Il revient sur les travaux de Sperry, et il insiste sur un point que j'ai trouvé honnête. Le syndrome de déconnexion est profond et persistant. Si tu donnes une information à un seul hémisphère, l'autre ne l'a pas. Et typiquement, seul l'hémisphère gauche verbalise. La lecture forte, c'est deux consciences dans un crâne. La lecture faible, c'est un système avec deux flux d'informations qui ne communiquent plus. Et la différence entre les deux, en termes de preuves, c'est quoi? Parce qu'à ma connaissance, il y a eu, vers 2017, une étude de Pinto qui contestait justement l'idée des deux consciences séparées en montrant qu'un patient pouvait rapporter la conscience d'un stimulus présenté à l'hémisphère muet. Exactement. Et c'est là que je trouve la prudence de Koch bienvenue. Il ne tranche pas. Il dit « voilà ce qu'on observe empiriquement. La déconnexion informationnelle est robuste. » Le saut vers combien de sujets d'expérience est un saut théorique, pas empirique. Ce qui est aussi mon reproche à beaucoup de littérature grand public sur la conscience, on habille des intuitions métaphysiques en résultats expérimentaux. Ça fait une bonne transition vers l'article de Noema, parce que Guy Chound, lui, part exactement de ce genre d'incertitude irréductible, et il en tire une conclusion normative. Sa thèse, si je la reformule charitablement, on ne saura jamais avec certitude si une IA est consciente, donc attendre la preuve avant de décider comment la traiter, c'est déjà prendre une décision morale. Il transpose le problème des autres esprits animaux aux machines. L'analogie est séduisante, mais je veux la stress-tester. Chez le rat, on a une continuité évolutive, une architecture neurale homologue, des comportements de douleur conservés. Le prieur de conscience n'est pas nul, il est même assez élevé. Un transformé qui prédit le token suivant, la base de similarité, est quoi ? Exactement. Le fait qu'on appelle les deux neural networks, c'est une objection juste. La force du prior compte énormément. Mais je pense que Guy Chant anticipe ça avec ce qu'il appelle le compétence standard. L'idée serait, à mesure que les systèmes deviennent compétents sur des tâches qu'on associe à la cognition, notre incertitude devrait augmenter, pas rester à zéro par défaut. Ce n'est pas les LLM sont conscients, c'est notre P conscient ne devrait plus être négligeable. Et à grande échelle, ça a des conséquences morales attendues, non triviales. Je peux acheter ça comme cadre de décision sous incertitude. Ce qui me gêne, c'est quand on saute de « on ne sait pas » à « donc traitons-les comme si ». Parce que la neuroscience de l'interprétabilité mécaniste qu'il cite, honnêtement, ne nous dit rien sur la phénoménologie. Elle nous dit qu'il y a des circuits qui encodent le Golden Gate Bridge. Ça, c'est de la représentation, pas de l'expérience. D'accord, et il le reconnaît d'ailleurs. La neuroscience n'a jamais réussi à fermer le gap subjectif pour les animaux non plus, ce qui pour moi est l'observation la plus honnête de son texte. Le corrélat neural de la conscience, 40 ans de recherche, on a des candidats, on n'a pas de critères décisifs. Bon, allons voir des papiers plus techniques, parce que les deux arxives sont intéressants dans ce contexte, justement. Le premier, Dendriciel, prétend qu'un seul compartiment dendritique implémente déjà un algorithme d'apprentissage en ligne complet, du withdraw-off LMS. Et qu'avec ça, tu obtiens de l'in-context learning sans avoir besoin d'attention, ni de profondeur, ni de plasticité synaptique à l'inférence. C'est un claim fort. Qu'est-ce qui te fait ou pas y croire? Ce qui est solide, il montre qu'un linear probe récupère la trajectoire du LMS depuis la membrane apicale avec un R-kagorei de 0.93. Ça, c'est un vrai résultat de correspondance structurelle, pas juste une analogie. Ce qui demande réplication, la seed stability en superdimension par rapport aux transformers qui, eux, feraient du groking instable. Un seul papier, un benchmark, une architecture, il faut voir si ça tient hors de GARC 2022.
Et l'intérêt pour le sujet du jour, c'est que ça déplace la question de où se trouve le calcul cognitif. Si l'ICL peut vivre dans la dynamique d'un compartiment unique, Alors nos intuitions sur « il faut de la profondeur et de l'attention pour que quelque chose d'intéressant émerge » sont peut-être mal calibrées. Oui, et ça relie au papier sur le Meta-Representational Predictive Coding. Là, l'idée, c'est de contourner la backprop, qui est biologiquement implausible, en construisant un self-supervised learning basé sur le principe d'énergie libre à la Freestone, avec de l'active inference. C'est une famille d'approches qui monte depuis quelques années. Et à ma question habituelle sur Freestone, est-ce que c'est prédictif ou est-ce que c'est un cadre tellement flexible qu'il réexplique tout après coup? Parce que le Free Energy Principle a une réputation d'infalsifiability qui n'est pas totalement imméritée. Elle n'est pas imméritée, non. Mais ce papier-là, MPC, fait quelque chose de plus précis. Il propose un mécanisme concret, encoder only, qui prédit des représentations plutôt que des pixels et qui peut être benchmarké contre du SSL contrastif standard. Là, on peut mesurer. La question sera, est-ce que ça marche empiriquement aussi bien que SimCLR ou Dino à coût comparable? Si oui, l'argument bioplausibilité devient un vrai plus. Sinon, c'est une jolie théorie. On fait un pas de côté avec l'article d'AOC sur Dehaene, parce que c'est un registre complètement différent, sciences sociales versus sciences cognitives. Et l'objection est intéressante. Vas-y, parce que sur Dehaene, j'ai des réserves anciennes. L'article prend l'hypothèse forte de Dehaene, le « langage de la pensée » à la Fodor, revisité en grammaire générative à la Chomsky, qui expliquerait la singularité humaine, des maths à la musique, en passant par le langage. Et l'auteur d'AOC dit « Très bien, mais vous naturalisez une capacité qui a en réalité une histoire sociale » et vous invisibilisez les inégalités de capital linguistique. L'objection en sciences sociales est légitime, mais elle ne réfute pas la thèse cognitive. Elle la complète. Que le cerveau humain ait des prédispositions génériques à certaines régularités abstraites, c'est une question empirique. Que l'exercice de ces capacités soit socialement distribué de façon très inégale, c'est une autre question, empirique aussi, mais dans un autre champ. Les deux peuvent être vrais. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est un exemple typique de conflation entre niveaux d'explication. Ce qui m'intéresse davantage dans la critique, c'est le point sur la surinterprétation des données bébés. Dehaene, comme beaucoup de générativistes, s'appuie sur des tâches de looking time chez le nourrisson pour attribuer des compétences abstraites précoces. Et ces paradigmes ont, disons, des défis de réplication non triviaux. Substantiel? Oui. La crise de réplication en psycho du développement est réelle. Les tailles d'effets sont souvent petites, les tailles d'échantillons petites aussi, et les cadres théoriques imposent parfois plus qu'ils ne découvrent. Ça ne veut pas dire que Dehaene a tort. Ça veut dire que le socle empirique est plus fragile que la confiance rhétorique ne le suggère. Et pour boucler le dernier article, le poisson cavernicole de Nautilus, je le trouve rafraîchissant parce qu'il fait exactement ce que les autres ne font pas. Une hypothèse mécaniste, testable et testée. Ils identifient un noyau, le caudal postérieur tuberculum. Ils montrent que les mêmes neurones qui répondent au noir chez le poisson de surface répondent à la lumière chez le cavefish, et ils font des croisements pour montrer la base génétique. C'est de la neuroéthologie classique et propre. Et le point conceptuel est joli. L'évolution recycle des circuits existants plutôt qu'elle n'en crée. Ce qui, incidemment, est aussi ce que suggère l'interprétabilité mécaniste des transformers. On retrouve souvent les mêmes circuits qui font des choses différentes selon le contexte. Il y a peut-être là un principe assez général. Ce qui me plaît dans ce papier, comparé à la discussion Noéma, c'est qu'on est dans une science où on peut trancher. Sur la conscience des IA, on sera longtemps dans quel prior mettre, pas dans quelle expérience faire. Et il faut assumer que ces deux modes coexistent en sciences cognitives. Assumer et être clair sur lequel on pratique à chaque instant. C'est peut-être la leçon transversale du jour. La neuroscience produit à la fois des résultats mécanistes solides sur des circuits et des cadres spéculatifs sur l'esprit qui n'ont pas le même statut épistémique. Confondre les deux, c'est la source de la moitié des mauvaises interprétations grand public. Eh bien, c'est une bonne note pour s'arrêter là. Merci pour le tour.
Merci, à bientôt.